Chapitre 16. 10 juillet. Au fond, c'est tout décidé, je suppose. Je me le disais encore en serrant la main du capitaine, qui est venu hier soir nous voir une dernière fois, avant notre rendez-vous à Bâle. Mon père, m'a-t-il dit, m'écrit qu'il a gardé un souvenir enthousiaste de sa visite ici. Je pense qu'il a l'enthousiasme facile. Croyez-vous, mais peut-être vous a-t-il paru un peu original. Comme tous les savants, il connaît mal la vie réelle. Voilà une appréciation filiale que je me permets de ne pas partager, au moins sur un point. Naturellement, je n'ai rien répondu, je me suis contenté d'observer une fois encore que Percé ne ressemble en rien à son père, et j'en ai été charmé, sans trop savoir pourquoi, je pense. En tout cas, je ne l'avouerai pas à mon cousin. Il est tellement bizarre de s'imaginer que je ne connais pas mon héros. Quoi ? Je l'ai vu dans des circonstances vraiment extraordinaires. 4 fois. Depuis, il est venu à la Platière, et cette étude ne serait pas suffisante pour une Française. C'est méconnaître la promptitude et la vivacité du vieil esprit des Gaules. Mais Dieu soit loué de l'erreur, car notre voyage aura une saveur particulière. L'imprévu étant l'ennemi naturel de mon cousin, il a choisi la Suisse uniquement parce que les services y sont assez bien organisés pour que nous n'ayons qu'à passer paisiblement d'un bateau dans un train et d'un train sur un bateau. C'est une manière comme une autre de comprendre la nature. Que nous importera à nous qui aurons tant à observer ? Dans les choses extérieures et dans celles tout intimes de notre amour naissant, nous verrons d'exquises affinités. Pendant que M. de la Platière contemplera le lac et les montagnes, ni plus ni moins, nous voguerons sur des mers sans rivage et le sommet du Pilate sera le ciel même. Car tout dit ce soir autour de moi que les idées de mon guerrier, que ses qualités, ses goûts sont en étroite union avec ma propre manière de voir et de sentir. C'est à la douce clarté de la nuit que des faits, à peine observés, revêtent leur véritable physionomie. Son portrait. Il est assez grand. Son uniforme, qui est charmant, c'est celui des hussards, lui va à ravir. Ses yeux sont bruns, ses cheveux sont blonds. Sa bouche est bien, mais son nez devrait avoir quelques millimètres de plus en longueur. Je crois que les anciens paladins avaient généralement un nez un peu long, un peu fort et très légèrement recourbé, ce qui leur donnait un air mâle qu'on n'aurait jamais pu confondre avec celui d'un gamin de Paris. Mais, après tant de secousses et de transformations dans les sociétés, les traits d'une race ont eu le temps de se déformer, je veux dire, de se modifier. Il est intelligent extrêmement, le général nous l'a dit. Intelligent, d'abord de façon innée, ensuite par cette étude approfondie des faits et des idées qui donne un jugement large, élevé, sans aucune étroitesse. Son caractère est trempé comme l'acier, je hais les gens sans caractère. Son esprit a tous les nobles enthousiasmes. Il méprise les petits côtés de l'existence et ne s'abaisse pas, ainsi que mon cousin, à étiqueter sa vie comme une boutique d'épicier. Il monte au-dessus des choses matérielles et n'en prend que ce qu'il faut pour n'être dupe ni de lui-même ni des autres. Ainsi libre, il court vers l'art, la poésie, la nature, et s'élève avec moi sur les ailes idéales qui nous ont été données. Enfin, il a sur moi une supériorité masculine, devant laquelle j'éprouve la plus douce, la plus étrange volupté, à ployer comme le roseau. Son cœur. Ah, comme j'en pressens les ardeurs, et aussi les délicatesses infinies! Avec un mari semblable, je vivrais au fond d'un désert. Le désert me manquera, mais je consens à être esclave, non sans fomenter quelque révolte, si l'idée m'en passe par la tête. Ce soir, mes titans ne me disent pas que je suis fourmi, car ils voient en moi une femme qui aime, et ils s'agenouillent devant ma puissance. Les bruyères, dont les nuances se perdent dans l'harmonie générale, l'harmonie elle-même, les cieux, les étoiles, la brise s'inclinent devant l'humanité. Chaque beauté, chaque force inconsciente avoue, en me regardant, son infériorité. Chapitre 17. Bâle, 17 juillet. pendant que mon tuteur, un bonnet grec enfoncé sur les yeux, dormait en homme que ne tourmente point l'excès d'imagination, je laissais mes idées suivre la vitesse du train. L'esprit est-il jamais plus actif qu'en voyant glisser ainsi rapidement les hommes et les objets ? Il semble que la vie est entraînée dans le même mouvement, que les années courent, se pressent, et avant même qu'on ait eu le loisir d'y songer, transforme votre jeune visage en celui d'une vieille avenante dont les sentiments et les idées, dirigés par une douce philosophie, étendent sur tous leur immense bienveillance. En arrivant à Bâle, j'avais percé à jour mon existence entière, scruté les chagrins de ceux qui regardaient fuir le train, analysé les joies de notre voyage, couru les aventures que j'y voulais trouver, réussi dans les découvertes que j'y voulais faire. À la dernière station, j'escaladais le Mont Blanc, je tombais dans une crevasse et désormais, comme cactus, percé n'avait plus qu'à pleurer sur des cendres. Mon tuteur, qui avait perdu son bonnet grec dans l'affaire, me ramenait, tout grelottant encore de son séjour dans les neiges, au milieu de nos bruyères, où on m'élevait ton monument en granit. Et parmi les fleurs roses et les roches éboulées, j'attendais le réveil général. Mon travail intellectuel avait été si intense que nous arrivâmes à Bâle avant que je me fusse douté de la longueur du chemin. J'étais dans une surexcitation qui concerna Monsieur de la Platière. « Arrivez, cousin, arrivez! Réveillez-vous, vite, vite! Descendons, courons !»« Mais nous avons le temps, Hélène, 20 minutes d'arrêt !» D'un air endormi, il ôtait sa calotte et, méthodiquement, il prenait, un à un, les objets dont il s'était encombré. « Vous me faites bouillir, tuteur !» m'écriai-je en bouleversant manteaux et paquets. « Passez-moi tout cela, partons !»« Mais, Hélène, la paix, je t'en prie ! Pourquoi te mets-tu en pareil état ?»« Que de choses vues déjà ! J'en suis transportée !»« Le pays est absolument insignifiant depuis Paris !» répondit-il tranquillement. « Bah, le pays ? Et celui qui est dans ma tête ? » dis-je en sautant sur le quai. « Que le bon Dieu patafiole les têtes de femmes !» répondit mon cousin. Je cherchais vainement le paladin, mais impossible de rien découvrir qui ressemblât, de près ou de loin, à un être de cette espèce, quand une voix, sa voix, me dit « Permettez, mademoiselle, que je vous débarrasse !» Et mon sac, mes ombrelles, passaient entre les mains d'un jeune homme quelconque, revêtu de pied en cap, de flanelle blanche à rayures noires. C'est ce qui a remplacé les hautes bottes viriles et les côtes d'acier. On ne peut nier, du reste, que ce ne soit plus pratique, surtout quand on circule au milieu de gens éteints, qui n'ont même pas l'idée de procéder par gourmade quand ils se déplaisent. Mais je ne sais pourquoi il semble qu'un homme ainsi vêtu a pris l'apparence flasque de sa flanelle. Jusqu'alors, je ne l'avais vu qu'en uniforme et retiré de la crevasse du Mont Blanc, c'était sur du bleu hussard et des brandebourgs noirs que mes yeux mourants s'étaient arrêtés. Cette brusque transition était bien faite pour me surprendre, d'autant que les impressions chez la femme sont extrêmement vives, beaucoup plus vives, je crois, que chez l'homme. En tout cas, elles ne sont pas les mêmes, car dans l'omnibus, mon tuteur lui dit « Vous avez adopté un costume très commode. » « Oui, c'est essentiellement pratique. Le molleton se nettoie si facilement. Avec deux costumes comme celui-là, en voyage, on est toujours propre. » Mon cousin parut enchanté, car s'il veut que, avant de me promener, j'étudie le caractère du héros, il entend bien faire, lui aussi, son étude particulière. Et cette réponse du capitaine, qui n'a l'air de rien, était pour mon cousin un indice précieux à recueillir. C'est ainsi que, dans la prairie, un apache, pour suivre une trace, ne néglige aucun brin d'herbe foulé. Mais ce serait fermer les yeux à la lumière du soleil que de nier la grandeur de l'uniforme, non pas seulement parce que la couleur en est brillante et la forme jolie, il faut laisser ces misérables pensées aux esprits légers, mais parce que chaque couture renferme des gloires et des dévouements. Tant de gens ne savent rien approfondir. Nous sommes descendus à l'hôtel des Trois Rois, et c'est en regardant couler le Rhin que j'écris mon journal. Ce matin, en face du même spectacle, M. Anvec et moi avons échangé nos pensées. Que c'est joli! Quel voyage charmant je vais faire! Je me gardais de dire « nous allons faire », car mon tuteur, dont il faut admirer parfois la sagesse, m'a expressément recommandé de ne point associer ouvertement le capitaine à nos mouvements. « Ce Haut-Rhin est un bien beau fleuve, » répliqua-t-il. « En le regardant, on pense au fameux passage de Louis XIV. « Il y a de la vie, du mouvement, » répondis-je. « Oui, c'était rempli d'intérêt. » « Je suis contente que vous aimiez comme moi cette pièce classique. Boileau a été bien inspiré. »« Boileau ? N'est-ce pas lui qui a décrit le passage du Rhin ?»« Je parlais au point de vue stratégique, mademoiselle. »« Ah, parfaitement » dis-je refroidi. « Louis XIV et sa perruque devaient être pleins de dignité. Sur les vieilles gravures, on le voit sous un arbre qui se trouve toujours là à propos. » Avec un cheval qui pointe au moment où il devrait bien rester tranquille. Le général avait bien raison de nous vanter les qualités militaires du capitaine. Auprès d'une fiancée à venir, en face d'une matinée brillante et d'un beau fleuve en mouvement, il faut être vraiment consumé par le feu sacré pour opérer en imagination le passage du Rhin par Louis XIV. Rien n'est beau, du reste, comme le feu sacré. À l'exemple des prêtres antiques, avec plus d'ardeur encore, j'entasserai dessus une quantité de charbon, en supposant qu'ils se servissent de charbon, car, assurément, je n'aimerais pas un mari qui ne gravirait point prestement les sommets. En devisant ainsi, nous étions arrivés près de la vieille cathédrale en grès rouge. Mon tuteur, avec son petit sac passé en sautoir, son parasol et sa lorgnette étaient bien l'image vivante de l'homme qui pêcherait à la ligne au milieu des plus grands bouleversements. Nous n'avions pas de cataclysme sous les yeux, il est vrai, mais enfin, il doit penser que le grand drame de la vie commence dans mon cœur et celui de l'homme, en molleton léger, debout auprès de moi. La tranquillité de mon cousin m'agaçait. « Il faut que nous passions le Rhin, » dis-je tout à coup. « Si tu veux, allons chercher le pont qui est là-bas. »« Pour rien au monde, je ne traverserai le Rhin sur un pont, » répondis-je avec indignation. « Nous allons monter dans la barque, cousin. Voyez comme elle a l'air d'une coquille de noix sur ses eaux rapides. » D'une rive à l'autre, un câble est tendu en l'air. Une corde qui tombe verticalement retient une petite barque et glisse le long du câble à mesure que le passeur manœuvre ses avirons. Que la corde casse et aussitôt le courant vous a précipité dans l'Aquéron. Cette apparence de danger me plaisait infiniment. « Je cours, » dis-je. « Descendons cet escalier, nous serons dans 5 minutes près de la barque. »« Par exemple, Hélène, je ne veux pas en entendre parler, » s'écria mon cousin. « Il est bien plus simple de passer sur le pont. »« C'est trop pensif, il me faut la barque. » Je veux avoir mon passage du Rhin comme Louis XIV, mais je ne veux pas que ma grandeur m'attache au rivage. Je descends. Il serait plus sage, mademoiselle, de suivre l'avis de monsieur de la Platière. Mais déjà, je dégringolais un escalier fruste et moussu et franchissais une ruelle ensoleillée pendant que mon cousin suivait en trébuchant et en gémissant. Hélène, Hélène, sois raisonnable! Un pont est construit pour qu'on s'en serve. Quand il me rejoignit, je sautai dans la barque. Le capitaine, en esclave soumis, sinon satisfait, était à mes côtés, et mon cousin dut s'asseoir, tout mari, auprès de nous. Du reste, dit-il pour se rassurer et en réfrénant son courroux, il n'y a aucun danger. Aucun, assurément, répondis-je, si ce n'est celui de nous noyer. Le notonnier, qui avait une cravate bleu pâle, dont les longs bouts flottants ondulaient comme une flamme, se mit à rire. « La demoiselle s'amuse. Je n'ai jamais noyé personne. Pourtant, dit-il en clignant de l'œil avec malice, afin de me faire bien comprendre son intention, on m'a raconté qu'une année, il y a bien longtemps, la corde a cassé et la barque a chaviré. Mon tuteur, maté par la crainte, réservait pour plus tard la scène que je voyais dans les plis de son front, pendant que le capitaine soupirait en me regardant. J'étais dans l'enthousiasme. Ce passage sur le Beau-Rhin, avec les vieilles maisons en amphithéâtre de chaque côté, la cathédrale rouge, les eaux roulantes contre lesquelles l'homme luttait en faisant tourner et retourner la barque, ce passage était plein de merveilles. « Vos yeux rient, » me dit Percé, en donnant par l'inflexion de sa voix un sens très flatteur à ces simples mots. « Aimez-vous le danger ? » demandai-je. « Avec vous, oui. » « Non, sans moi. » « Je n'aime pas le danger inutile. » « Qu'appelez-vous inutile ? » dis-je avec impétuosité. « Rien n'est inutile de ce qui excite les grandes forces de l'âme. Si nous ne traversions pas le Rhin ce matin sur une misérable barque, notre admiration serait-elle ainsi excitée ? Aurions-nous cette sensation, délicieuse et virile en même temps, de nous sentir suspendus sur la mort ?« Vous aimez l'hyperbole, » dit-il en riant. « D'ailleurs, s'il y avait eu un danger réel, je vous eusse supplié de ne pas le courir. »« J'aurais refusé. » »« Alors je vous aurais suivi. Je n'ai pas le droit, mais ne me le reconnaîtrai jamais, d'imposer ma volonté. » C'était charmant et poli. Je n'avais rien à dire, et quand nous débarquâmes sur l'autre rive, je ne sais pourquoi j'aperçus Louis XIV, Boileau et Percé qui mangeaient de concert un bâton de guimauve. Jamais on ne vit tuteur plus furieux. Aussitôt sur la terre ferme, les tempêtes éclatèrent. « J'espère, Hélène, que voilà ta dernière fantaisie. Je veux faire un voyage tranquille, sache-le bien, entends-le bien. » « Je serais au désespoir de vous contrarier, mon pauvre tuteur, vraiment, sérieusement. Mais le Rhin était si tentant. » Et puis, il faut bien que je soumette à différentes épreuves le caractère que j'étudie. Tu trouves, j'espère, que le capitaine a du sens commun. Les réponses qu'il t'a faites étaient très sensées. Si sensées et douces, cousin. Aujourd'hui, cet homme est un madrigal ambulant. Je pense que tu ne t'en plains pas. Pas le moins du monde. Quoique, ajoutai-je en grossissant la voix, j'eusse préféré que, d'un ton viril, il eût répondu « Je saurai prouver à vos caprices que j'ai une volonté. » « Ah bien, par exemple, c'est trop fort. Avec ton caractère ?»« Vous n'y comprenez rien, tuteur !» Le reste de la journée s'est passé de la façon la plus agréable. Percé, tout en filant de nouveau un peu de soie, a dressé notre itinéraire des jours à venir. Nous avons vu beaucoup d'Anglais fort laids, un musée, des rues, contempler le Rhin. Et nous partons demain pour Lucerne. Minuit sonne, l'heure des revenants. Je voudrais en voir. J'aimerais qu'ils vinssent me conter leur vie passée, qui ne diffère certainement pas de celle des vivants actuels. Mais nous ne pouvons nous figurer que le mouvement banal de l'existence est le même pour tous, et parce que la mort a étendu son voile, nous croyons qu'en le soulevant, nous découvririons ce que nous n'avons point encore vu. Pur mirage. Je me sens mélancolique, et cependant, rien n'est plus captivant qu'un voyage. Certainement, voici déjà beaucoup d'imprévus et d'aventures. Allons, il me faut reposer, comme soupirerait une précieuse. Et les songes heureux me consoleront de n'avoir point causé avec des revenants.
Chapitre 18. Lucerne, 18 juillet. Ce matin, plus de revenants. De bonne heure, ils étaient partis en vedette pour Lucerne, et de bonne heure, nous les avons suivis. Comme incident de voyage, la douane nous a barqués à et nous a fait attendre ridiculement. Les Suisses ont une mine placide et honnête, mais ils aiment à se moquer des pauvres gens qu'ils torturent pour leurs bagages. Ils venaient nous regarder à travers les vitres des portes et, manifestement, s'amusaient des impatiences, rentrées ou exprimées, qu'ils découvraient dans le troupeau. Moi, je ne rentrais rien pendant que mon tuteur, tranquillement assis, lisait son journal et que M. Henveck calmait mon agitation par une conversation pratique. M. de la Platière m'a dit qu'il descendrait à l'hôtel national. On en dit beaucoup de bien.
La cuisine, paraît-il, y est bonne.
Ah, est-ce que vous n'avez pas envie de ferrailler contre ces employés qui se moquent de nous ?
Mais non, je vous assure, vous auriez dû naître 5 siècles plus tôt, mademoiselle.
J'aurais souvent mis flamberge au vent.
Et vous, n'auriez-vous pas aimé ces temps d'aventure où, de par le droit du plus fort, on eût réduit ces impertinents à la raison ?
J'aime la tranquillité, je n'aime pas le droit du plus fort et je suis pour les moyens pacifiques.
Mais ce n'est pas la première fois que j'admire votre ardeur, ajouta-t-il en riant.
Dans un soldat, c'est surprenant un esprit aussi posé et pacifique.
Je n'eus pas le temps d'enfoncer quelques pointes. On ouvrit les portes et nous courûmes à l'assaut du train, non en foudre de guerre, mais comme de misérables moutons. 2 heures plus tard, nous étions ici.
Le lac plaît extraordinairement à mon tuteur. C'est bien ainsi qu'on se figure un lac et l'admiration n'a pas d'étonnement. Il y a, à La Platière, un site à peu près semblable, dessiné sur un de ces vieux devants de cheminée en usage, jadis dans nos maisons.
« C'est joli, c'est charmant !» dis-je à Percé qui s'extasiait. « Et l'esprit ne peut être troublé par la vue de l'immensité. »«
Oui, j'aime mieux cela, je suis comme vous, » répondit-il sans saisir l'ironie de mes paroles.
« C'est bien ce qu'on veut voir. »
Je le regardais de travers. Pencherait-il à ce point vers le banal ? N'aimerait-il pas ces secousses de l'imprévu qui, pareilles à la baguette de Moïse, font jaillir de l'esprit des sources inconnues ?
Mais il avait de graves préoccupations.
« Je suis contrarié au dernier point, » dit-il à Monsieur de La Platière. « On a égaré un de mes sacs. »«
C'est bien contrariant, en effet, » répondit mon cousin, aussitôt pénétré de douleur devant un aussi tragique événement.
« Avez-vous réclamé ?»«
J'ai réclamé. On a envoyé des dépêches. Je me suis fâché et je compte recommencer si on ne l'a pas trouvé demain. Je demanderai une forte indemnité, j'en réponds. »«
Vous aurez bien raison. Ces négligences sont insupportables. »
Et pendant 30 bonnes minutes, ils ont discuté sur cet incident. Deux détrousseurs de grand chemin ne peuvent mieux s'entendre. Ils étaient bien d'affreux voleurs qui dérobaient toute la poésie que nous avions devant nous pour l'engloutir dans une mesquinerie.
Si on en croit la légende, je suis sûr que Cartouche et Mandrin, en pareil cas, eussent été bien supérieurs à leur mauvaise fortune. Ils l'auraient peut-être réparée en me prenant ma montre, mais avec tant de courtoisie et en m'offrant la main pour danser une gavotte.
Dans un chemin défoncé, sous de grands arbres centenaires, la berline est entourée. 3 hommes ont saisi la tête des chevaux. Le vieux cocher à perruque blanche, qui s'est trompé en prenant ce mauvais raccourci, et auquel l'indignation rendait force, veut résister. Il est bâillonné, lié et déposé dans le fossé. Les 2 valets trouvent prudent de s'y asseoir sans invitation spéciale.
Mandrin s'approche de la portière.
« Je vous conjure, monsieur, de ne point résister. Ne me mettez pas, de grâce, en la pitoyable nécessité de vous égorger. »
Je fais mine de m'évanouir, mais devant un regard impérieux, aussitôt je reviens à moi.
Mandrin, chapeau bas, m'offre la main pour descendre, et sur son invitation courtoise, nous dansons gravement pendant que ces créatures dévalisent la berline. Lui est trop grand seigneur pour se commettre à ouvrage civil.
Jamais je n'ai déployé tant de grâce. Mon capuchon est tombé, je détache la graffe de ma mante de soie qui glisse à terre. Un ravissant costume de voyage fait valoir ma taille et mon tuteur, appuyé sur sa longue canne à pomme d'or, est obligé de m'admirer, ainsi qu'il l'avoue plus tard. En s'étant poudré, il savait voir le pittoresque des événements.
La gavotte exécutée, Mandrin s'incline jusqu'à terre, menace de tuer un de ces hommes qui a pris ma mante et me la met délicatement sur les épaules en disant « Je garderai un éternel souvenir de ce moment. »
Moi aussi.
Les cochers et les valets, dont les jambes flageolent, reprennent leur place, nous partons. Mandrin lui-même nous escorte jusqu'à l'extrémité du chemin, de peur d'un malentendu qui pourrait, dit-il, nous coûter la vie. « Je ne m'en consolerai jamais, » ajoute-t-il en me regardant. Nous arrivons à la grande route. Il salue, nous nous inclinons, les chevaux partent enfin ventre à terre et nous parcourons le reste de notre trajet sans une pistole, mais avec un souvenir qui vaut 1000 écus. C'est une grande injustice d'avoir rompu vif de pareils artistes. De notre temps, ce sont bien d'autres gens qu'il faudrait mettre sur la roue. « N'y a-t-il qu'un sac sur la terre ? » dis-je enfin. « N'est-il pas simple d'en acheter un autre ?»« Oh, ce sont là des choses très désagréables !» s'écria M. Anvec d'un ton mécontent. « Assurément, mais Hélène est souvent dans les nues, » répondit mon cousin, qui m'en voulait de conserver mon calme devant les terribles contrariétés de la vie. Je battais une charge avec mes doigts sur les plis de ma robe et songeais à une phrase que j'avais lue le matin dans mon cahier de notes. C'est donc dans les grandes crises qu'il faut observer l'homme. C'est dans l'adversité qu'on le connaît. Alors seulement, la vérité s'échappe de ses entrailles, le masque tombe, le caractère reste. Ainsi a parlé Lucrèce, et dans la profonde adversité où était tombé le capitaine, dois-je supposer que le masque disparaissait et que point n'ait besoin d'être Lucrèce pour s'enfoncer bien avant dans la nature humaine ? Je commence à croire, m'a dit M. de la Platière, pendant que M. Anvec et son malheur s'éloignaient, que ton imagination, pour une fois, ne t'a pas égaré. Jusqu'ici, toutes mes observations sont à l'avantage de ce jeune homme. J'avais dit d'ailleurs au général que M. Anvec ne me déplaisait pas, et que, dans ses visites à la Platière, je lui avais toujours trouvé un maintien modeste. Maintien modeste ! Les romans du XVIIIe siècle, à la sensibilité, la vertu sans vertu, et la poudre à la maréchale, parlaient ainsi de leur fade héros. Pourquoi pas maintien vertueux ? Et alors, autant dire qu'il est coiffé d'un bonnet de nuit. Percé en bonnet de nuit ? Jamais cela ne s'est vu. Et il faut être un descendant du mari de Madame Roland, descendant dégénéré encore, pour ternir de cette manière un brillant cavalier. « Dites tout de suite, cousin, m'écriai-je, qu'il est sacristain et sonne les cloches toute la journée, ce sera plus vite fait. »« Mais Hélène, je lui adresse des compliments, pourquoi te fâches-tu ? » »« Je ne me fâche pas, mais est-il permis de traiter ainsi un capitaine de l'armée française ? » Est-ce un maintien modeste que de monter dans un donjon sous le prétexte fallacieux de stratégie, mais en réalité pour dévorer du regard Andromède et sauter ensuite par une fenêtre ? Ce souvenir fut un coup de vent sur les nuages accumulés par mon tuteur, et ils achevèrent de se dissiper quand M. Anvec, nous ayant proposé d'aller jusqu'à Fluelen, je me vis glissant sur le lac par un temps radieux. La délicieuse promenade. Lorsque nous sommes revenus, le soleil était couché. Une fine vapeur donnait de la transparence à tous les objets. Je pensais aux âmes qui nous entourent et peut-être nous protègent. Le rêve flottait dans l'atmosphère et l'intelligence ne pouvait mieux agir qu'en devenant rêve elle-même. La mienne suivait donc le mouvement des esprits qui nous enveloppent de leur influence, nous caressent ou nous réchauffent, nous inspirent ou nous élèvent. Ce sont eux, je le croyais ce soir, qui raniment notre pensée engourdie, ouvrent nos yeux à la beauté qu'ils connaissent désormais sans voile, s'approchent de notre âme pour la former à la vérité et lui dire ce que l'invisible leur a révélé. En parlant de la paix indicible qu'ils ont trouvée sur l'autre rive, et dont les douces apparences de la nature ne sont qu'une pâle image, ils m'engageaient à les suivre dans l'Élysée, et il semble que je me fusse endormi avec une sérénité singulière pour me réveiller au milieu de la plus suave douceur, dans cet invisible que rien ne limite, tandis qu'ici, au pis-aller, la distribution et variété de tous les actes de ma comédie se parfournit en un an. Si vous avez pris garde aux branles de mes 4 saisons, elles embrassent l'enfance, l'adolescence, la virilité et la vieillesse du monde. Il a joué son jeu. Il n'y serait autre finesse que de recommencer. Ce sera toujours cela même. et j'aurais voulu chanter la mort qui nous ouvre un monde dont la comédie ne se parfournit point en un an.
Ces esprits parlent une langue exquise, dis-je tout haut. Ils nous attirent vers un pays plus pur, plus doux encore que ses rivages. Ne voudriez-vous pas les suivre ?
De quoi parles-tu ? Demanda mon cousin, avec l'inquiétude qu'il aurait eue si, transporté à Cumes, il se fût tout à coup rencontré avec la Sibylle.
Quels esprits ? Demanda le capitaine.
Tous ceux qui nous entourent. Ne savez-vous pas que l'air en est peuplé, qu'il nous frôle sans cesse et ouvre nos facultés à l'infini ?
Quoi ? Vous prenez au sérieux ces contes de bonnes femmes ?
Mon premier mouvement fut de répondre
« Bonne femme vous-même !»
Mais il doit y avoir d'autant moins de laisser-aller entre nous que notre situation est plus particulière. Aussi me contentais-je de quitter à regret le doux Élysée pour un lac comme tous les lacs, entouré de montagnes comme toutes les montagnes. Les cervelles masculines ont une opacité vraiment étrange. Pour comprendre, il leur faut des mathématiques quand un mot et un peu de brouillard nous suffisent absolument. Sur le lac des Quatre Cantons, vu au crépuscule, le mot « esprit », sans plus ample informé, dit tout ce que peuvent concevoir d'ailé et de vaporeux, de profond et d'immortel, des infirmes de notre espèce. Au point de vue métaphysique, c'est une éducation à faire.